marchait lentement vers l'immeuble. Il ne regardait pas autour de lui. Le trajet était obstinément le même. Il n'inventait jamais d'autre itinéraire. Il ne changeait pas de côté de trottoir, se dirigeant droit vers l'école, puis de retour chez lui. Il montait lourdement les 57 marches jusqu'au 3e étage. Il ne sautillait pas, il ne se hâtait pas, Ernest n'était pas pressé. Les 10 ans de sa vie s'étaient passés sans courir, dans la quasi-immobilité d'une vieillesse plus que précoce. Il posa le cartable dans sa chambre, la moins encombrée de la maison parce que la plus petite. On aurait dit un placard, ou la cellule d'une antique prison. Un lit, une table, une chaise, une armoire, le tout impeccablement rangé. Il sortait ses livres et cahiers à l'avance pour ses devoirs avant d'aller trouver son goûter sur la table de la cuisine. Une grosse pomme verte et une biscotte l'attendaient depuis midi. La gouvernante les installait tous les jours après avoir débarrassé la table du déjeuner. Son goûter variait peu. Après quelques bouchées, la pomme l'écœurait, mais il la mangeait jusqu'au bout. Puis, il commençait à faire ses devoirs avec concentration et méthode. Il savait que plus vite c'était fait, plus vite il pourrait piocher dans la seule armoire qui n'était pas fermée à clé. Quand grand-mère entendit le grincement de la porte de la bibliothèque et le tintement de la vitrine, elle sortit de sa chambre et vint s'asseoir avec Ernest dans le salon. « Bonsoir, grand-mère, » dit Ernest, en prenant place sur le canapé en velours usé. Personne ne l'appelait jamais par son prénom, précieuse. C'était difficile d'imaginer quelqu'un s'adressant à elle ainsi. Grand-mère inclina la tête en guise de salutation. Elle parlait rarement et peu. Ernest avait l'impression que si elle bougeait plus, elle se désintégrerait. Elle avait 80 ans, mais le genre de 80 ans vraiment vieille, comme les grand-mères des livres anciens. Sa peau était tellement fripée et froissée et sèche qu'Ernest avait peur que si jamais elle souriait, ça devienne de la poussière. D'ailleurs, elle ne souriait jamais. Elle marchait avec peine, elle mangeait sans appétit, elle gardait ce petit-fils par devoir. Il n'y avait personne d'autre qu'elle. Elle avait élevé Ernest depuis sa naissance à la mort de sa mère. Dans la famille Morlaix, on mourait d'accidents anciens, des accidents de l'histoire. La Deuxième Guerre mondiale pour son grand-père, la Grande Guerre pour son arrière-grand-père et pour son propre père, une étrange disparition après l'enterrement de sa femme, quand Ernest était vieux d'un jour. Sa grand-mère avait donc perdu son père à 5 ans, perdu son mari à 30 ans, perdu son fils à 70 ans, en héritant d'un bébé pour qui elle n'avait ni la force physique, ni la force morale. Mais elle fit ce qu'il fallait faire. Elle avait immédiatement engagé une femme à peine plus jeune qu'elle pour veiller à la nutrition et à l'hygiène du bébé. Cette femme, Germaine, venait à l'époque de perdre son mari, n'avait pas d'enfant et cherchait à fuir son isolement plus qu'à gagner un salaire. Les deux femmes s'entendaient bien car elles avaient les mêmes principes. Beaucoup de principes. Elles vivaient côte à côte, en ligne parallèle. Madame Morlaix lui avait offert une des nombreuses chambres, mais Germaine préférait aller et venir. Sauf au début, quand Ernest ne dormait pas encore la nuit. Et parfois, par mauvais temps. Germaine était donc vieille aussi. Une vieillesse qu'elle travaillait à masquer avec les maquillages les plus modernes. Les fards de Germaine étaient d'ailleurs le seul soupçon de modernité dans cette maison sans appareil, sans machine, sans télévision. Germaine se livrait à une bataille contre les cheveux blancs, les rides et la graisse. Mais elle avait abandonné la lutte contre la dépression. Les premières années, elle avait entouré Ernest des seules paroles qu'il entendit. Mais dès son entrée à l'école, Germaine se renferma, comme sa patronne. La conversation était réservée à la communication strictement utilitaire. Et même celle-ci fut peu nécessaire, car la maison marchait toute seule, par habitude, par lassitude, en service minimum réglementé. Germaine faisait les courses et la cuisine. Elle aurait pu commander par téléphone, mais il n'y avait pas de téléphone. Une autre dame, une amie de Germaine, également avancée en âge, faisait le ménage. Tout le linge allait chez le blanchisseur. Madame Morlaix s'assit. Statue silencieuse et morne. Avant, elle lisait aussi à côté d'Ernest. Maintenant, ses yeux se fatiguaient trop vite. Souvent, Ernest levait la tête de son livre et s'apercevait que grand-mère somnolait, toujours droite et raide dans son fauteuil. Ça lui arrivait même de ronfler, ce qui offrait un peu d'animation sonore pour rivaliser avec le tic et le toc des horloges. Ernest savait que grand-mère n'aurait pas aimé savoir qu'elle ronflait, et il ne lui en fit jamais la remarque. Quelle que soit la profondeur de son sommeil, elle se levait d'un bond à 20h pour écouter les informations. La radio était un des premiers modèles fabriqués. Obtenir France Inter était un défi aussi grand que de recevoir Radio Londres pendant la guerre, avec le même effet de son lointain et de parasite proche. Madame Morlès n'entendait plus très bien, et le journaliste n'était pas tenu de répéter 3 fois chaque information, comme il aurait fallu. C'était sans importance, car Madame Morlès n'était pas très curieuse du monde. De temps en temps, un mot, un nom, un pays provoquait une réaction. Si par hasard le journaliste disait l'Allemagne, elle répétait en soupirant « L'Allemagne ». Ce qui lui importait était d'allumer la radio à 20h, comme elle l'avait toujours fait. Ernest, lui, écoutait attentivement, du début à la fin, comme si on allait lui annoncer la réponse qu'il cherchait. La politique, les élections, les politiciens ne l'intéressaient pas. Lui, il s'asseyait patiemment sur le canapé et guettait la Troisième Guerre mondiale, celle qui, comme les précédentes, emporterait sûrement un autre Morlès. C'est à 20h30 que les Morlès soupent. Le menu est toujours identique, de la soupe. La soupe se digère bien, fait grandir et assure une nuit paisible, à condition qu'il n'y ait ni sel ni poivre. Germaine ne revenait pas le soir. Ernest réchauffe la soupe et range les assiettes dans l'évier. Après, il va se coucher sans contestation. Un enfant a besoin de sommeil. Avant de faire sa toilette, il dit « Bonne nuit, grand-mère, dormez bien !» et elle cligne des yeux en signe de reconnaissance. Ainsi, les jours de la semaine, Ernest se lève sans entrain, mais bien entraîné. Mange 2 biscottes avec la confiture d'orange amère fabriquée par une cousine de Germaine dans le midi, boit 1 bol de lait tiède, noue sa cravate, range son cartable et se rend à l'école. Il revient tous les midis, car ni Germaine ni grand-mère ne croient au bienfait de la cantine scolaire. Chez elle, il n'y a ni boîte de conserve ni surgelée. Les poissons sont en pleine possession de leur tête, les pommes de terre sortent de la terre, sans passer par des usines. Madame Morlès craint l'overdose de sel, de sucre et de mauvaises influences. Germaine soupçonne les mauvaises huiles, les fritures, la viande avariée et un excès de bruit. Ernest n'a ni jean, ni jogging. 2 fois par an, un tailleur se rend chez eux, prend ses mesures et lui coud un costume d'une coupe neutre, ni du siècle dernier, ni de celui-ci. Ça ressemble plutôt à l'uniforme d'un pensionnaire anglais. Ce tailleur lui fournit également ses chemises, cravates, mouchoirs, sous-vêtements, chaussettes et 1 manteau. Cet accoutrement évite à Ernest les contacts avec les autres enfants. De toute façon, il les évite. Non pas par goût, mais par prudence. On ne se moque pas de lui, on a l'habitude. Et il est de loin le meilleur de la classe, sauf en expression écrite, quand il faut raconter une émission de télévision, ses dernières vacances ou ce qu'il a fait le dimanche. Les dimanches d'Ernest sont encore moins remplis que les autres jours de la semaine. Les minutes s'écoulent, goutte à goutte, comme dans un sablier humide. Germaine ne vient que pour préparer et servir le repas de midi. Un repas de dimanche qui comprend 1 viande et 3 légumes avec de la compote pour dessert. Après la sieste, Madame Morlès convoque Ernest au salon, retire 1 clé de sa poitrine flétrie, ouvre la porte en marqueterie, sort 1 boîte en porcelaine fine dans laquelle se trouve la lettre. Ils prennent place tous les deux autour de la table posée sur un pied en forme de lion doré. « Vous la lisez, grand-mère ?» demande Ernest. Madame Morlès extrait la feuille de son enveloppe, la déplie avec d'infinies précautions et la fixe comme si elle contenait les solutions à tous les puzzles de l'univers. Seulement, elle est illisible. Ernest le sait, mais chaque dimanche, il espère plus fort. Lui-même, bien qu'étant le meilleur de sa classe, ne peut pas comprendre le moindre signe. Il n'y a ni A, ni B, ni Z, simplement une jungle de nœuds qui crie d'une façon muette. Son arrière-grand-père l'avait envoyé d'un village près du front. De tous les secrets dans cette maison, celui-ci était le plus grand. Ou peut-être le 2e plus grand. Ernest pensait que s'il continuait à être un excellent élève, il percerait un jour les secrets.